Outre mon oncle, Tom, moi et le peintre dont j'ai parlé précédemment, il y avait d'autres locataires dans la maison. Je vais les énumérer en allant du bas en haut, pour arriver ainsi jusqu'à celui qui, le plus près du ciel, en prit le chemin vers ce temps, laissant vacante une belle mansarde au nord où j'allais m'établir. Ne me demandez pas, lecteur, ce qu'ont à faire dans mon histoire ces nouveaux personnages. Rien, peut-être, mais si vous m'avez accompagné jusqu'ici, que vous coûtera une digression de plus? Vous y êtes accoutumé, et moi j'aurais fait revivre ces figures qui me sont chères comme l'est toute ressouvenance du jeune âge. À moi donc, antique locataire, voisin d'autrefois, disparus aujourd'hui de la scène du monde, mais dont mon cœur cultive avec charme le lointain souvenir. C'était d'abord, sur le même étage que nous, un régent retraité, vieux bonhomme, tout occupé du soin de manger agréablement, une paye morte gagnée par 40 années de travaux. Tranquille et jovial, épicurien, il arrosait le matin les fleurs d'un petit jardin. À midi, il faisait régulièrement sa sieste, et après son dîner, il se récréait à humer la brise du soir, en compagnie de quelques serins qu'il élevait, becquetant, voletant à ses côtés. Toutefois, il n'avait pas entièrement rompu avec son ancien état, et son amusement principal, c'était d'appliquer à toute chose et à tout venant quelques sentences extraites de ses souvenirs classiques. J'avais jadis passé par ses mains, et je n'étais point insensible à l'agrément prosodique de ses apophthegmes. Aussi m'aimait-il, et il ne lui arrivait guère de me rencontrer sans m'apostropher à sa façon. Puer, si qua fata sperarum passe, tu Marcellus eris. Et sa panse rebondit, allait, venait, d'un rire long et moelleux, auquel, sans le partager, je portais envie. S'il advenait qu'une ancienne servante lui apportât du village quelques petits présents intéressés, Timeo Danaos et Dona Ferretes, et la panse allait son train. Mais s'agissait-il de son épouse, alors il ne tarissait plus. Dum comuntur, dum moliuntur annus est, varium et vint habile semper femina, notumque furens quid femina possit. Et bien d'autres. Cependant, madame faisait des compotes, tout en trouvant le ton de son époux détestable, ce qui portait celui-ci à murmurer Melius nihil caelibe vita. À l'étage au-dessus, c'était un octogénaire bourru, morose, ancien magistrat de la République. L'été, assis dans une grande bergère, il vivait auprès de sa fenêtre, d'où il contemplait pieusement la rue, voyant à toute chose la décadence de l'État et la ruine des mœurs. Aux maisons reblanchies, aux murs écrépis, aux chapeaux ronds, à la rareté des cadenettes, et surtout à la jeunesse des gens, cuncta terram mutata, praeterea crocem animam cantonis, disait le régent. L'hiver, enfermant ses deux maigres jambes dans des bottes de carton, il vivait au coin de son feu, ne le quittant plus que pour venir tous les mois à sa porte, en bottes de carton toujours, assister quelques mendiants, ses contemporains, vieux débris dans lesquels il reconnaissait encore les vestiges du bon temps, les restes vermoulus de cette ancienne république, si changée, si déchue. Au-dessus de ce vieillard morose, vivait très retirée une famille nombreuse, dont le chef était un géomètre employé au cadastre. Cet homme, à sa planchette tout le jour, passait une partie des nuits sur ses feuilles. Il avait, je m'en souviens, l'orgueil de la gêne laborieuse et indépendante, et si, de loin en loin, il se permettait en famille une partie de plaisir, il en savourait la jouissance d'un air grave et fier, qui m'imposait à moi, jeune homme, un respect mêlé d'admiration. Dos et magna parentium virtus, disait avec gravité le régent lui-même. Avant d'arriver à la mansarde, on passait encore devant la demeure d'un joueur de basse. Celui-ci donnait le son tout le jour, se réservant la nuit pour composer des thèmes sur son instrument. Modo summa, modo accressonat, quae cordis quatuor ima. Tout à l'entour du musicien s'ouvraient des chambrettes, des cabinets loués ou sous-loués à des étudiants qui prenaient leur repas chez lui. Ces messieurs, grands fumeurs, récitaient leurs cours, chantaient des romances, donnaient du corps ou jouaient du flageolet, en sorte que dans cette région, la symphonie était permanente. Quousque tandem. Et enfin, la mansarde dont j'ai parlé. Cette mansarde était grande, avec un jour magnifique. Le géomètre voulut la voir, et moi aussi. On perça une fenêtre, on éleva une cloison, et nous eûmes chacun notre mansarde. Je retrouvai la vue du lac et des montagnes. Ma fenêtre se trouvait au niveau et fort près de ces grandes rosaces gothiques qui sont à mi-hauteur des tours de la cathédrale. De cette région élevée, le regard s'étendait sur des toits déserts, tandis que le bruit de la ville mourait avant que d'y arriver. Mais je commençais à atteindre l'âge où ces impressions n'exercent plus leur puissant empire, et chaque jour davantage, mon cœur cherchait en lui-même ses émotions et sa vie. Par cette même cause, mon goût pour l'imitation n'était plus si vif. Il faut à ces penchants un calme que je n'avais plus. Souvent agité, troublé par les vagues mouvements d'une tendresse sans objet, je ne savais plus voir mon modèle. Je regardais avec dégoût mon ingrate copie, et, posant le pinceau, je m'abandonnais à ma rêverie pendant des heures entières. Cette vie intérieure a son charme et son amertume. Si ses songes sont doux, le réveil est triste, sombre. L'âme rentre dans la réalité, ayant fatigué ou perdu son ressort. Ainsi, incapable après ces heures de reprendre mon travail, et non moins qu'incapable de faire renaître les songes, je quittais ma demeure pour aller au dehors, promener mon ennui. Et ce fut dans une de ces promenades qu'une rencontre fortuite vint me tirer de cet état de langueur et de demi-oisiveté. Un jour, j'allais rentrer dans ma demeure par la porte qui est du côté de l'église, sous le gros tilleul. Un brillant équipage stationnait auprès. À peine l'eus-je dépassé, qu'une voix, que je reconnus aussitôt, me porta à retourner la tête avec vivacité. « Monsieur Jules !» s'écria la même voix avec émotion. Dans mon trouble, j'hésitais à m'approcher lorsque je crus comprendre qu'on m'y invitait. Je reboussai, un geste rapide ouvrit la portière et je me trouvai en présence de l'aimable Lucie. Elle était en habit de deuil et les yeux mouillés de larmes. À cette vue, les miennes coulèrent. Oh, je me souvenais tout à la fois de sa robe blanche, de ses filiales alarmes, des paroles du vieillard, de sa bonté envers moi. Oh, qu'il méritait de vivre, lui dis-je bientôt, et que c'est une cruelle perte, mademoiselle. Permettez que je me donne ces pleurs au souvenir que je conserve de son aimable bonté. Lucie, encore trop émue pour répondre, me pressa la main avec un mouvement dont une gracieuse réserve tempérait la reconnaissante affection. « J'espère, me dit-elle enfin, que, plus heureux que moi, vous possédez encore monsieur votre oncle. » « Il vit, lui dis-je, mais l'âge s'accumule et le courbe vers la terre. Que de fois, mademoiselle, je songeais à votre père, et chaque jour je comprenais mieux votre tristesse. » Lucie, se tournant alors vers un monsieur qui était assis auprès d'elle, lui expliqua brièvement, en anglais, le hasard auquel elle avait dû de faire ma connaissance et celle de mon oncle 5 années auparavant, et comment ma vue, en lui rappelant vraiment une journée où son père avait été si heureux et si aimable, lui avait causé cette émotion. Elle ajouta quelques mots d'éloge envers moi et envers mon oncle. Et lorsqu'elle parla de ma condition d'orphelin, je retrouvai dans son expression et dans ses paroles cette compassion qui autrefois m'avait tant ému. Quand elle eut achevé ce récit, le monsieur, qui paraissait ne pas parler français, me tendit la main avec une expression d'affectueuse estime. Alors Lucie, s'adressant à moi, « Monsieur est mon époux, c'est le protecteur et l'ami que m'a choisi mon père lui-même. Depuis ce jour, vous le vîtes, monsieur Jules, je ne devais plus le conserver longtemps. Dieu l'a retiré 18 mois après. » Oh, plus d'une fois, il avait souri en se rappelant votre histoire. « En quelque temps, ajouta-t-elle, que vous ayez un malheur semblable au mien, je vous prie de m'en instruire. Je veux saluer votre oncle. Quel âge a-t-il ? » « Il entre, madame, dans sa 85e année. » Après quelques silences, sous l'impression de cette réponse, « J'étais venu pour parler au peintre qui a fait le portrait de mon père. Pensez-vous, monsieur Jules, que je pourrais le rencontrer seul ?»« Mais sans aucun doute, madame. Vous me donnerez vos ordres et je les transmettrai à mon confrère. » Elle m'interrompit. « Ah, vous avez donc pu suivre votre penchant. Oh, eh bien, j'accepte votre offre et je choisirai mon moment. Mais auparavant, mon époux et moi serions désireux de voir vos ouvrages. « Habitez-vous cette même maison ?»« Oui, oui, madame. Et quelque confus que je sois de n'avoir à vous montrer que de misérables essais, je n'ai garde de refuser, par amour propre, l'honneur que vous voulez bien me faire. » Nous dîmes encore quelques mots. Bientôt je descendis et la voiture s'éloigna. Cette rencontre inattendue, en redonnant la vie à d'anciennes et tendres émotions, me tira de l'espèce de langueur où je végétais depuis quelques mois. Mais l'oserais-je dire? Si j'ai toujours aimé ma juive et chéri sa mémoire, ce fut néanmoins de ce jour que mes regrets perdirent de leur amertume et que mon âme, comme déliée du passé, recommença à se porter vers l'avenir, doucement chargé d'un souvenir qui lui devenait moins poignant, sans cesser d'être aimable et cher. Toutefois, cette entrevue n'avait pas été plus pure de tout nuage. Bien qu'ayant oublié Lucie, bien que n'ayant jamais pu former, même au sein de mes plus folles rêveries, le moindre projet de lui être jamais quelque chose, dès le premier abord, la vue de ce monsieur assis auprès d'elle m'avait été triste. Et lorsque, de la bouche de Lucie, j'appris qu'elle était mariée, des lueurs de trouble et de jalousie, peine avait traversé mon cœur. Mais ce fut un souffle passager. Avant même de quitter la voiture, mon cœur s'était donné à ce monsieur et je ne voyais plus dans Lucie que son épouse, tout aimable, qu'il me permettait de chérir. Les jours suivants, je vécus de ce souvenir et de l'espoir de revoir bientôt Lucie. J'avais fait quelques copies, entre autres celle de la Madone, deux ou trois portraits, puis quelques compositions, la plupart d'une exécution plus que médiocre, mais ne manquant pas de certains indices de talent. Comme l'on peut croire, le bourgeon m'aida, avec la plus vive active complaisance, à les disposer à leur avantage, et tout était prêt pour recevoir Lucie lorsqu'elle arriva en effet. Son mari l'accompagnait. Encore aujourd'hui, je ne puis songer à cette jeune dame que ce souvenir ne remue mon cœur. Que ne puis-je peindre sous ses traits assez aimables cette bonté si vraie dont son rang, son éclat, son opulence rehaussaient encore le charme. Cette simplicité de sentiment que n'avait pu fausser ou contraindre les manières ni les préjugés du grand monde. Bien qu'une expression de mélancolie lui fût habituelle, le souffle d'un bienveillant sourire réchauffait ses moindres paroles, lorsque déjà la caresse de son regard prêtait à son silence même un attrait pénétrant. Dès qu'elle fut entrée dans ma modeste mansarde, ses premiers mots furent pour m'adresser d'encourageantes félicitations. Elle regardait mes ouvrages avec un intérêt particulier, et dans tout ce qu'elle en disait en anglais avec son époux, je saisissais une charmante intention de bonté. Un instant seulement, leurs propos s'échangèrent à voix basse, mais sur un ton et d'un air qui n'étaient pas propres qu'à me donner ce doux embarras qui accompagne quelque riante attente. Tandis qu'à la demande de Lucie, je retournais toutes mes toiles pour les faire passer sous ses yeux, j'entendis dans le corridor le pas de mon oncle. J'accourus pour lui ouvrir la porte. Lucie, comme pressentant quelque chose, s'était levée. À la vue de mon vieil oncle, elle alla au-devant de lui. Puis, faisant un retour sur elle-même, elle ne put réprimer son attendrissement. Mon oncle, serein comme toujours et fidèle à un ancien usage de galanterie, prit la main de cette jeune dame et, s'étant incliné, il la porta à ses lèvres. « Souffrez, belle dame, lui dit-il, que je vienne vous rendre la visite dont vous m'honorâtes il y a 5 ans en me ramenant ce mauvais garçon-là. « Oh, je sais, reprit-il en voyant couler les larmes de Lucie, oh, je sais que vous êtes affligée. Ce noble vieillard était votre père. Je sais aussi que voici monsieur votre époux, digne de l'être puisqu'il vous l'avait choisi. » Le monsieur, en cet instant, serra la main de mon oncle en l'invitant à s'asseoir sur un siège qu'il avait lui-même approché, pendant que je n'avais l'intention que pour cette scène. « Monsieur, dit à son tour Lucie, vous pardonnerez à mon émotion. Quand, à Lausanne, je vous vis, vous et mon père, dans la même chambre, tous les deux du même âge à peu près, tous les deux bien nécessaires au bonheur de deux personnes. Oh, j'eus alors des pressentiments que votre présence me rappelle trop vivement en cet instant. Je remercie Dieu de ce qu'il vous a conservé. Si le hasard m'eût fait rencontrer monsieur Jules, mon intention était de ne point quitter Genève sans avoir été chercher de vos nouvelles. Mais il m'est plus doux de vous voir bien portant, comme vous paraissez l'être, et je suis aussi reconnaissante que confuse de ce que, pour me procurer ce plaisir, vous êtes montée jusqu'ici. Bonne dame, dit mon oncle, vous êtes une charmante créature, et c'est plaisir que de vous entendre. Alosa, dit, monta bien votre père, et il n'en fut pas payé par cet accueil qu'on ne sait faire qu'avec votre voix, vos manières et votre cœur. Chère madame, soyez heureuse. Bientôt, bientôt, je monterai plus haut encore, si ce n'est que voici mon pauvre Jules qui n'y consent pas. Ah, toujours moi, mon bon oncle, lui dis-je, tout ému du regard et du rapport aussi triste que frappant qu'il y avait maintenant entre ma situation et celle où j'avais vu autrefois Lucie. Et je lisais dans l'expression de cette jeune dame que sa pensée en cet instant rencontrait la mienne. Que je vous dérange point, reprit mon oncle après quelques propos. Vous regardiez les essais de mon pauvre Jules. Bien, je vais vous laisser. Dites, je vous prie, à monsieur, que je regrette aujourd'hui de ne pas savoir l'anglais plutôt que l'hébreu. J'aurais eu le plaisir de l'entretenir. Puis prenant la main de Lucie, adieu, dit-il, mon enfant, soyez heureuse. C'est le droit d'un vieillard que d'accompagner de ses bénédictions une aussi jeune dame, aussi fais-je. Allez, adieu, cher monsieur, vous êtes unis, je vous séparerai plus dans mon souvenir. À ces mots, mon oncle Tom, s'étant incliné de nouveau, baisa la main de Lucie et se retira. Tous trois, nous l'accompagnâmes, pénétrés de ce vif sentiment de respect et d'affection qu'impose la vieillesse aimable et auquel se mêle une mélancolique pensée. Quand mon oncle se fut éloigné, nous nous assîmes. Lucie parlait de lui, elle voulait lui trouver des traits de ressemblance avec son père, surtout dans cette sereine gaieté, dans cette politesse si vraie, sous des formes un peu antiques ou familières. Et souvent, elle s'arrêtait après ses remarques, comme attristée par l'idée de la perte que me réservait un prochain avenir. Puis, changeant d'objet, Monsieur Jules, me dit-elle, non sans qu'un souffle de rougeur colorât ses joues, nous avons apporté avec nous ce portrait de mon père que vous connaissez. Notre désir serait d'en avoir deux copies. J'espère que vous voudrez me faire le plaisir de vous charger de ce travail. Votre talent nous est une garantie qu'il répondra à notre attente quand déjà le souvenir que vous avez conservé de mon père bien-aimé est un motif qui me touche plus encore. Que l'on juge de ma joie! Il me fallut en contenir l'expression. Mais Lucie et son époux purent, au travers de mon embarras et de ma confusion, en mesurer toute la vivacité. Ce qui l'augmentait encore, c'est le sentiment que j'avais qu'un pareil travail n'était pas au-dessus de ma portée. Le jour même, j'allai prendre le portrait, et m'étant mis à l'œuvre, je me vis cette fois bien décidément lancé dans la carrière des beaux-arts. En d'autres circonstances, ce portrait m'eût inspiré quelque tristesse, car il refoulait vivement mon imagination dans le passé pour y retrouver plein de vie ces deux êtres si chers l'un à l'autre et maintenant séparés par la mort. Cette jeune fille ornée de ce riant éclat de parure et de jeunesse que les larmes n'ont point encore terni, et Lucie, maintenant voilée de tristesse et de deuil. Mais j'étais trop préoccupé par la joie et la reconnaissance pour que l'impression de ce contraste établisse sur moi son empire. Quelle occupation charmante! Mon crayon avait à retracer cette figure bien-aimée. Il avait à reproduire les contours de la taille, la gracieuse mollesse de l'attitude. Parfois, je m'arrêtais, épris de mon modèle, et pour quelques instants, l'émotion m'empêchait de poursuivre. Bonne madame, dit mon oncle quand il apprit ces grands événements, je regrette de n'avoir pas su l'anglais plutôt que l'hébreu. Te voilà bien content, mon pauvre Jules, c'est permis. Il se redressa. Que cet ouvrage te fasse honneur, qu'on y voit observer les lois du clair-obscur, celles des deux perspectives, tant linéaire qu'aérienne, et puis l'entente de l'art, et puis. Bonne dame, aussi affectueuse, en vérité, qu'elle est belle! Cependant, la calèche de Lucie, durant sa dernière visite, avait stationné du côté de la maison qui fait face à l'hôpital, tandis que les équipages qui amenaient les modèles de mon confrère arrivaient par le côté qui fait face à la cathédrale. Cette circonstance avait attiré l'attention des locataires. Aussi, lorsqu'après mille conjectures dans lesquelles ils n'avaient eu garde de songer à moi, ils eurent reconnu que cette calèche à armoiries, stationnée là à mon intention, la renommée de ma gloire, gloire toute neuve et d'autant plus brillante, monta d'étage en étage, et le vieux régent se prit à dire, en songeant à ses prédictions, « Non ego perfidum, dixi sacramentum !»« Mais quel mauvais mot, dites-vous là !» interrompit sa femme. « Odi profanum vulgus et archeo !»« Faites vos compotes !»« Non, j'avais cru que 50 années de classe vous ôteraient cette odieuse manie de latinité qui vous rend insupportable. Ne sauriez-vous laisser là ces sottises et parler français comme tout le monde ?» Mais vous différez fort d'Horace, ma chère, car c'est lui qui a dit « Nocturna versate manu, versate diurna ». Et s'il vous fait grâce de la nuit, vous pouvez bien m'écouter le jour. Horace et tous ces messieurs sont de grands sots, si ce sont eux qui vous ont ainsi formé l'esprit. La nuit, vous ronflez que je n'en puis pas dormir, et le jour, vous m'étourdissez vos calembours. Mais vous calomniez là des beautés que vous ne sauriez comprendre. Songez, ma chère, que si je mange vos compotes et que je les trouve bonnes, vous pourriez goûter mes hexamètres et leur trouver du parfum. Quellem inamicitia, sic erraremus. Mais mes compotes sont excellentes et vos ragoûts détestables. Melius nil caelibe vita. Et je reviens à mon dire sur ce jeune homme. Non ego perfidum, dixi sacramentum. D'autre part, le joueur de basse et toute sa séquelle, j'ai dit ailleurs que les étudiants vivent à la fenêtre, n'avaient pas manqué de remarquer la brillante calèche. Au moins 15 têtes s'étaient tout à coup montrées aux fenêtres qui donnent sur la rue, regardant curieusement les laquais descendre, ouvrir la portière, et la jeune dame entrait dans l'allée, appuyée sur le bras de son époux. Ici, les conjectures avaient commencé. Mais chez qui monte-t-elle? Serait-ce, avait pensé le musicien, un amateur, que la Providence... Et toutes les têtes s'étaient reportées vers les fenêtres, mansardes, œil de bœuf donnant sur la cour. Lucie montait. Lucie avait franchi l'étage. Oh, décidément, cette belle dame allait chez le jeune artiste. Et ma gloire s'était élevée jusqu'aux astres. Il n'y eut que le géomètre et sa famille qui s'aperçurent peu de ces grands événements. Le chef de la maison était au champ, occupé à prendre ses angles. La mère vaquait aux soucis du ménage, tandis que la fille aînée, de l'autre côté de ma cloison, travaillait aux feuilles de son père. Au milieu de cette vie active et austère, il y avait peu de temps à donner aux affaires de la rue et au commérage des voisins. Cependant, mon ouvrage avançait. Levé dès l'aube, je montais à mon atelier pour y travailler avec ardeur jusqu'au déclin du jour. C'est à ces habitudes laborieuses que je dus de faire quelques connaissances avec le géomètre. À l'aube aussi, il sortait de chez lui avec sa fille. Nous montions ensemble l'escalier, et, tandis qu'il entrait dans son atelier pour désigner à cette jeune fille les travaux de sa journée, j'allais, de mon côté, m'établir dans le mien. Le voisinage et cette conformité d'habitude nous rapprochèrent peu à peu. Malgré tout le prix que cet homme attachait à l'emploi du temps, il en était déjà venu à perdre une ou deux minutes en causerie sur le pas de la porte, lorsque le sujet que nous avions commencé à traiter en montant exigeait impérieusement quelques brèves paroles de plus. Pendant que nous montions, sa fille montait devant nous, tenant la clé de l'atelier dans sa main. C'était une personne d'une taille agréable et d'une figure noble, plutôt que jolie. toujours tête nue, d'une mise extrêmement simple. Ses beaux cheveux, lissés sur le front, étaient, avec sa jeunesse et sa fraîcheur, sa plus réelle parure. Les traits d'une éducation forte se reconnaissent à tout âge chez ceux qui en ont reçu le bienfait. Bien que soumise et timide, cette jeune fille portait sur son front l'empreinte de cette fierté un peu sauvage qui se peignait avec plus d'énergie sur le visage de son père. Ignorante des manières du monde, elle en avait qui lui était propre, noble et réservée, en telle sorte que, simple comme sa condition, elle n'en avait pas la commune et vulgaire physionomie. C'était néanmoins une chose singulière et intéressante que de voir cette jeune personne, laborieuse à l'âge du plaisir, vouée sans relâche et presque sans récréation à des travaux d'ordinaire étrangers à son sexe, et, toute jeune qu'elle était, subvenant en commun avec son père à l'entretien de la famille. Je ne tardais pas à devenir assez régulièrement matinal pour ne jamais être exposé à monter seul à mon atelier. Seulement, il arrivait quelquefois que le géomètre, ayant assigné l'ouvrage dès la veille, Henriette montait seule. C'étaient mes mauvais jours, car, craignant de lui causer un embarras que déjà j'éprouvais moi-même, je ne savais mieux faire alors que de hâter le pas si je me trouvais devant elle, ou de le ralentir si je l'entendais monter devant moi. Une fois établi dans mon atelier, j'attachais un charme singulier à la présence de mon invisible compagne, trouvant une agréable distraction au moindre bruit qui me peignait son pas, son geste ou ses divers mouvements. Aussi, quand l'heure des repas l'appelait à descendre, j'éprouvais une impression d'isolement et d'ennui, de façon que, peu à peu, je m'habituais à m'absenter aux mêmes heures qu'elle. Au milieu de mes nouvelles distractions, une circonstance me revenait souvent à l'esprit. Les premiers jours avant mes habitudes matinales, il lui était arrivé quelquefois de chanter une petite ballade durant ses longues heures de travail. Et puis ce chant avait cessé tout à coup, et justement à l'époque où j'avais commencé à l'écouter avec un plaisir plus grand. Était-ce hasard? Était-ce à bon intention? N'avait-elle pas assez remarqué déjà pour s'imposer cette réserve? Cette réserve, indiquait-elle, qu'elle s'occupât de moi comme je m'occupais d'elle? Voilà cent questions et une foule d'autres qui me donnaient infiniment à songer, à méditer. Aussi, après mes copies, je n'entrepris plus rien. Mes toiles restèrent oisives, mes pinceaux gisaient épars. Nulle chose n'avait de saveur auprès du sentiment qui alimentait mes journées. Et ce n'était plus comme jadis ces rêveries dont je m'avouais à moi-même le vide et la folie. Cette fois, au contraire, l'idée de mariage s'offrit des premières à ma pensée, et dès qu'elle y fut entrée, elle n'en sortit plus. Heureux âge que celui où j'étais encore, dernier beau jour que doit clore bientôt la saison de l'expérience et de la maturité. Avant d'avoir encore échangé un mot avec cette jeune fille, je me proposais de l'épouser. Avant d'avoir jamais réfléchi sur cet état austère que les poètes nous peignent comme le tombeau de l'amour et les moralistes comme un joug sacré, mais tout pesant de chaînes, je m'y acheminais comme vers une rive toute de fleurs et de parfums. Avant de mettre en qui, comment ou de quoi vit un ménage où s'élève une famille, déjà et surtout, je m'occupais de combiner certaines dispositions dont la possibilité facile prêtait à mes désirs tout l'attrait d'une réalité prochaine. En effet, Tout se réduisait à percer une porte dans la cloison. Alors la mansarde d'Henriette devenait notre chambre nuptiale, la mienne notre atelier de travail, où elle a ses feuilles, moi mes toiles. Nous coulions des jours filés de paix, de bonheur et d'amour. Un matin, je songeais à ces choses, accoudé sur ma fenêtre et regardant machinalement le vieux régent qui arrosait les tulipes de son petit jardin, lorsqu'Henriette parut tout à coup à la sienne. Elle ne me cherchait pas, comme je pus le reconnaître, à la vive rougeur qui colora subitement ses joues. Toutefois, à moins de laisser voir que ma présence lui causait plus d'impression qu'il ne convenait à sa fierté de l'avouer, elle ne pouvait se retirer subitement. Elle demeura donc, seulement pour dissimuler son embarras, elle regardait en face d'elle les nuages flotter dans les airs. L'occasion était unique d'entrer enfin en conversation avec celle dont je me proposais de faire ma femme. Aussi, faisant un effort extrême pour surmonter une vive émotion, ces tulipes, dis-je au régent. À peine avais-je prononcé ces deux mots, qu'Henriette retira sa tête avant que le régent eût levé la sienne, et l'entretien demeura là. Ah, vous me regardiez faire, dit le régent. Malin, oh, je devine votre pensée. Pense encore de bâtir, mais planter à cet âge. D'abord, ce sont, jeune homme, des tulipes. Et quoi, défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui? Tenez cette bariolée-ci, qui vaudrait 20 ducats en Hollande. Je la destine à mon épouse. Purpureos pargam flores. Le régent citait encore que, troublé qu'on fût, j'avais déjà refermé ma fenêtre. Le mauvais succès de cette tentative m'ôta l'envie de la renouveler. Pendant plusieurs semaines, je me bornai à suivre discrètement le cours des habitudes dont j'ai parlé. Henriette recevait quelques rares visites. Sa mère, lorsque les soins du ménage lui laissaient quelques instants de loisir, montait travailler auprès d'elle. Aussitôt, me rapprochant de la cloison, je retenais mon haleine pour mieux entendre leurs discours. Votre père, disait la mère, sera de retour vers 6 heures. J'ai disposé vos frères pour que nous puissions sortir ensemble. Non, je vous verrai sortir sans moi, ma mère. Car je ne prévois pas que si je quitte cet ouvrage, il puisse être rendu demain. C'est jeudi, vous le savez, que se paye le terme. Mais vous êtes, ma chère enfant, bien nécessaire à la famille. Je me réjouis que vos frères puissent vous soulager. Je m'en réjouis pour mon père. Mais votre père est fort, Dieu merci, et jeune encore. Oh, je ne redoute pour lui que la maladie et l'âge. Vous pourriez nous manquer, Henriette. Je suis forte aussi et j'espère vivre. Ben, j'y compte, ma chère enfant. Mais l'âge viendra de vous établir. Je vous appartiens, ma mère. D'ailleurs, j'aime mieux garder cette gêne où nous vivons ensemble que de l'échanger contre une gêne où je serais étrangère. Mais c'est donc un époux riche que vous voulez, Henriette? Oh non, ma mère, car je ne serai pas son égale. Mais je ne veux pas non plus vous ôter mon travail pour le porter à un maître à qui je ne le dois point. Bon, vous avez raison, Henriette, de ne pas prétendre à la richesse. Mais considérez, mon enfant, que votre mère est bien heureuse au milieu de la gêne, et que tout son bonheur lui vient de son maître et de ses enfants. Une pauvreté plus grande encore, mais avec un époux honnête. Oh, c'est mieux que de rester fille, Henriette. Le malheur vient du vice et non de la pauvreté. Il y a, ma mère, peu d'hommes comme mon père. C'était s'approcher beaucoup de moi, sans m'apercevoir le moins du monde. Et tel était le sentiment que m'inspirait déjà cette fille vertueuse et fière, que j'en éprouvais un très grand chagrin de dépit. L'entretien d'ailleurs n'était nullement selon mon goût. Les propos d'Henriette annonçaient un cœur libre à la vérité, mais fort, disposant de lui, et qui, s'il était fait pour se donner son retour, ne présentait pas de ces côtés tendres et inflammables par lesquels seulement un jeune homme de mon naturel se flattait de pouvoir y trouver accès. La seule chose qui encourageait mes espérances, c'était les discours de la mère. Cette bonne dame, en faisant l'éloge de l'honnêteté pauvre, me semblait parler divinement bien et directement en ma faveur, car j'étais honnête, mais j'étais surtout pauvre. Malheureusement, Henriette ne dépendait pas uniquement de sa mère, et par un trait singulier mais naturel pourtant, ce caractère de fierté et d'indépendance qui distinguait les membres de cette famille, ça liait dans chacun d'eux à une libre mais entière soumission à la volonté du chef qui en était l'âme. Le géomètre, homme, ferme, austère, laborieux, s'il n'était ni affable dans ses manières ni courtois dans ses formes, exerçait d'ailleurs sur tous les siens l'empire puissant et respecté de l'exemple, du dévouement, de l'irréprochable vertu. Sa femme l'aimait avec vénération, et Henriette, à mesure qu'un jugement plus formé lui permettait de comparer son père avec les autres hommes, s'accoutumait à le placer plus haut dans son estime que la plupart d'entre eux. En telle sorte que sa piété filiale, profonde plus encore que tendre, respectueuse plus qu'expansive, avait voué à l'auteur de ses jours une obéissance sans réserve. Ni son cœur ni sa personne ne pouvaient appartenir qu'au préféré d'un père si digne à ses yeux de guider son choix. J'ai reconnu depuis et souvent, avec ce mouvement d'admiration qui va jusqu'à mouiller l'œil de chaudes larmes, combien était intéressante et vénérable cette humble famille, combien était vraiment grand cet homme obscur. Mais pour lors, cette austérité, cette soumission, ces vertus me semblaient autant d'obstacles à mes vœux. Que m'importait en effet que les femmes fussent soumises, si d'autre part je ne savais comment aborder leur maître et seigneur? Que m'importait que le géomètre fût austère, ferme, laborieux, si ses qualités, qu'assurément il voudrait retrouver dans son gendre, étaient justement celles qui me manquaient? Restait de lui faire goûter celles que je pouvais avoir en compensation, mais j'avais peu d'espoir d'y réussir. En effet, l'abord raide de cet homme, son œil fier et susceptible, sa parole brusque et l'ascendant de son caractère, m'imposaient en sa présence je ne sais quelle gaucherie où s'effaçaient tous mes avantages. Ainsi, tout était obstacle. Et puis, comme il arrive toujours, chaque obstacle se transformant en un stimulant désir, à force de songer combien il m'était difficile, impossible, d'obtenir la main d'Henriette, j'arrivais à ne plus former qu'un pressant, qu'un unique vœu, celui d'obtenir cette main. C'est ce qui me porta à prendre un parti chevaleresque, mais désespéré, celui de brusquer le premier pas, en faisant à ma future l'aveu passionné de mes sentiments. Oh, il ne s'agissait au fait que d'épier une occasion favorable. J'épiais donc, et si longtemps et si bien, que les occasions vinrent à m'être ôtées une à une avant que j'eusse fait ma déclaration. Ce fut le matin d'abord. Souvent, nous montions seuls ensemble, j'en étais déjà venu auprès d'Henriette à ce point de familiarité qu'après l'avoir salué, je lui adressai la parole pour lui demander des nouvelles de son père ou pour énoncer mon opinion, tantôt sur l'ennui des longues pluies, tantôt sur le charme des belles journées. 10 fois au moins, enhardi par ma hardiesse même, je me mis en devoir d'éclater en aveux significatif et tendre, lorsqu'à cet instant suprême, la rougeur me montant au visage et l'émotion m'ôtant la parole, je remis l'affaire à un moment où je me trouverais sans rougeur et sans trouble. Et pendant que je prenais ainsi mon temps, le géomètre se vit insensiblement de la partie, et Henriette ne monta plus seule à sa mansarde. Mais l'amour est si ingénieux. À l'heure des repas, Henriette descendait et remontait sans être accompagnée. Je m'arrangeais de manière à faire le voyage avec elle. La chose réussit à merveille. Il ne me restait plus qu'à me déclarer. Lorsque la famille changea brusquement l'heure de ses repas, et je dus, le soir comme à midi, descendre et remonter seul. Restait un dernier moyen, hardi à la vérité, mais infaillible. C'était de m'introduire chez Henriette sous quelque prétexte, et là, de donner un libre essor à mes sentiments. Oh, je me mis en chemin bien des fois, et ici encore, il ne me restait plus qu'à ne pas rebrousser à chacune, lorsque la mère d'Henriette prit peu à peu l'habitude de venir travailler auprès d'elle. Je dois aux leçons de M. Ratin et à ses pudibonderies harangues de n'avoir jamais osé adresser à une femme le moindre propos tendre, durant tout le cours d'une jeunesse où je ne fus d'ailleurs guère autre chose qu'aimer. Cette sotte timidité est un bien dont je reconnais aujourd'hui le prix. Par elle, le jeune homme retient et porte jusqu'au jour de l'hyménée cette pudeur native qui, une fois perdue, ne se recouvre plus. Par elle, son cœur demeure jeune, sincère. Il se remplit de 1000 sentiments vifs et tendres dont elle comprime l'essor, mais pour lui en faire apporter le pur et riche hommage à celle qui sera la compagne de sa vie. Mais alors j'en jugeais autrement. Je m'indignais contre moi-même, et réfléchissant combien de fois déjà cette incurable timidité avait enchaîné ma langue lorsque tout me conviait à parler, je commençais à croire que, né gauche et stupide, je finirais par demeurer garçon, faute d'avoir su déclarer mes sentiments. Heureusement, le hasard vint à mon aide. Un matin, je me livrais à ces pensées décourageantes lorsqu'on frappa à ma porte. Je courus ouvrir, c'était Lucie. La visite de cette dame me combla d'aise, car je savais d'avance quelle serait la grâce flatteuse de son langage, et j'étais bien déterminé à m'imaginer que, de derrière la cloison, Henriette n'en perdrait pas un mot. Lucie, de retour d'une excursion en Suisse, venait me demander des nouvelles de ses copies. Elle était seule, je les lui présentai. Elle eut l'intention d'en paraître enchantée, ravie, et de prodiguer l'éloge à mes talents. Aussi je ne me sentais pas de joie lorsque, changeant d'objet, « Vous n'étiez pas hier soir chez vous, monsieur Jules ? Auriez-vous pris la peine de monter jusqu'ici, madame ? Ah, justement, hier matin, mon oncle me fit demander pour sortir avec lui. » « Oui, bien, c'est ce que voulut bien m'apprendre une jeune personne qui travaille dans la chambre voisine et chez qui je me reposais quelques instants. Quel est son nom, je vous prie ?» À cette question, je rougis jusqu'au blanc des yeux. Lucie s'en aperçut et reprit aussitôt, non sans quelque embarras. « Je vous ai fait étourdiment une question que vous pourriez croire indiscrète, monsieur Jules. Bon, excusez-moi, mais... mon unique motif était l'envie de savoir le nom d'une jeune fille dont l'air, l'accueil et les manières m'ont inspiré de l'intérêt. Elle se nomme Henriette, repris-je encore fort troublé. Oh, c'est un nom que je ne prononce pas sans émotion, bien que je le prononce sans cesse. puis encouragé par l'air dont Lucie m'écoutait, et surtout par l'idée d'avancer, d'achever peut-être le grand travail de ma déclaration. « Bon, puisque j'ai osé vous dire cela, madame, ajoutai-je, je dois, ce me semble, vous en dire davantage. Bien, cette jeune personne, oui, je la vois tous les jours, je travaille tout auprès, je l'aime. Et votre question m'a troublé, comme si vous eussiez surpris un secret qui est demeuré jusqu'ici dans le fond de mon cœur. C'est en dire assez pour que vous compreniez quels sont mes sentiments et quel vœu il me porterait à former, si je pouvais me persuader qu'ils fussent agréés. » En cet instant, nous fûmes interrompus. C'était l'époux de Lucie. On revint aux copies, et bientôt, ils me quittèrent. Après ce qui venait de se passer, j'avais hâte de me retrouver seul. Glorieux, ravi, soulagé, j'admirais que j'eusse osé dire, et si bien, et si à propos, que c'est facile, pensais-je. Ce qui m'enchantait surtout, c'est qu'Henriette, libre à chaque instant de protester en se retirant, n'avait quitté sa mansarde qu'après l'arrivée de l'époux de Lucie. Sur cette circonstance, j'échafaudais tout un monde de bonheur. Henriette, en écoutant ma déclaration, l'avait accueillie. Henriette l'avait accueillie parce que son cœur était à moi. Enfin, comme vers 1 heure, elle ne remonta pas à son ordinaire. Je me persuadai aussitôt que, fille aussi soumise que tendre, elle venait de transmettre mes vœux à sa famille, qui en délibérait à 7 heures. J'étais donc en proie aux plus charmantes anxiétés de l'attente, lorsque, vers 3 heures de l'après-midi, j'entendis quelqu'un monter l'escalier. La personne se dirigea d'un pas ferme vers ma porte qu'elle ouvrit sans façon. C'était le géomètre. Il paraît que ma physionomie n'était pas dans son état normal. « Ma visite vous fait pâlir, » dit-il brusquement. « Vous pouviez pourtant vous y attendre. »« Effectivement, monsieur, balbutiai-je, je m'étais flatté. Bon, remettez-vous donc et prenons des sièges. » Nous nous assîmes. « J'ai l'habitude, » reprit le géomètre, « d'aller droit à mon chemin. Voici ce qui m'amène. » Puis fixant sur moi un regard étincelant de fierté, « Depuis longtemps, monsieur, vos allures me déplaisent. Je croyais m'être suffisamment mis en garde contre elles. » Mais ce matin même, et en présence d'une personne tierce, vous avez compromis ma fille. Que signifie ce manège ? Monsieur, tentai-je de répondre, blâmez mon inexpérience, mais ne suspectez pas mes intentions. Oh, les bonnes intentions procèdent ouvertement. Or, vos façons d'agir sont équivoques quand déjà votre situation, ce que j'en sais du moins, ne me tranquillise nullement sur vos façons d'agir. Vous me faites outrage, monsieur, interrompis-je avec un accent de vive émotion. C'est possible, reprit le géomètre d'un ton calme qui me remplit de crainte. Aussi, suis-je prêt à vous faire réparation? Il se peut en effet que je vous juge avec sévérité. Il se peut que, timide, inexpérimenté, gauche dans vos allures, vous soyez ferme et honorable dans vos intentions. Eh bien, c'est à vous de me faire la preuve que vos propos, dans tous les cas inconvenants, sont honnêtes du moins, que vous savez où ils peuvent, où ils doivent nécessairement conduire, sous peine d'être inexcusables. Prouvez-moi donc que vous êtes réellement en mesure de vous marier et aussitôt, je rends justice à vos intentions. Que gagnez-vous, monsieur, année commune ? Cette épouvantable question, que je voyais poindre depuis un moment, m'écrasa comme un coup de foudre. Je ne gagnais rien encore, Je ne possédais pas un sou vaillant, et j'avais oublié d'y songer. Si Henriette m'aimait, si Henriette m'était unie, quel besoin d'autres ressources? Percer la cloison et tout était dit. Mais le géomètre raisonnait autrement. « Mais je gagne, monsieur, » répondis-je tout pâlissant. « Je gagne, moi sans doute que je le gagnerai par la suite, mais j'ai un état. » Il m'interrompit. « Bien, c'est justement parce que vous avez un état et que cet état est celui de peintre que je précise ma question. Vous n'ignorez pas le proverbe. Votre état donne de la gloire, quelquefois, du pain, pas toujours. Ma fille n'a rien, et qu'avez-vous? Ou plutôt, j'en reviens à ma question. Que gagnez-vous, année commune? Je gagne. J'allais infailliblement mentir ou me trouver mal lorsqu'on frappa à ma porte. Qui est-ce qui aime la péripétie? Aristote loue la péripétie. Vive Aristote! Quoi dans l'univers peut valoir une bonne, une bienheureuse péripétie? Ma Lucie, mon bon génie, ma providence, j'avais ouvert. Un domestique en livrée entra, portant deux gros sacs d'argent. Dans mon ravissement, je le laissai faire. Il les posa sur la table et en ouvrit un d'où s'échappèrent à flots des écus qu'il se disposa à mettre en pile pour que je les reconnusse après lui. Puis, me présentant un panier, « Ceci est le bordereau, 1500 francs en espèces pour les deux copies. Milady m'a recommandé de les emporter, ainsi que le modèle, avec la permission de monsieur. » Aussitôt, plus de trouble. C'est bien, dis-je, je vais vous remettre ces copies. Puis me tournant vers le géomètre, qui s'étant levé avait déjà repris son chapeau. Comme j'avais l'honneur de vous le dire, monsieur, je gagne année commune. Vous avez, interrompit-il, vos affaires, moi les miennes, et cet homme attend. Allez, un autre jour. Et il se retira. Au moment où, rempli d'assurance, j'allais parler avec toute l'éloquence d'un amant épris que le ciel lui-même favorise et pousse au succès. « Oh, diable et géomètre !» m'écriai-je, quand il fut parti. Pour me consoler, je reportai mes regards sur les écus. C'était même, au milieu de mon désappointement, une douce vue. Les piles s'élevaient en colonnades serrées, et je trouvai à cette architecture une grâce merveilleuse. Jamais tant de trésors accumulés n'avaient frappé ma vue, et en songeant à Lucie, de qui me venaient tous ces biens, je ne pouvais me lasser de répéter « Oh, généreuse Lucie, mon bon génie !» En attendant que j'eusse trouvé un bon placement pour ma fortune, je la cachai tout entière dans le poêle, faute d'armoire, après quoi je sortis pour savourer, seul et à l'air des champs, la joie qui succédait dans mon cœur à des moments de si vive angoisse. D'ailleurs, les événements avaient bien marché depuis le matin, le temps pressait et j'éprouvais le besoin de recouvrer promptement assez de calme pour réfléchir aux démarches qui me restaient à faire. La première, c'était de tout confier à mon oncle, qui ne savait rien encore. Ce qui m'avait jusqu'alors porté à lui cacher mes projets, c'est la certitude où j'étais qu'il n'écouterait que la pensée de me rendre heureux en facilitant mon établissement par de nouveaux sacrifices de sa part. Cette certitude même, jointe à ce que je savais de l'étroitesse de ses moyens, certaines privations, surtout, qui s'étaient imposées récemment, depuis qu'il avait dû pourvoir à mon petit équipage d'artistes, m'avaient fait un devoir sacré de ne plus mettre à l'épreuve sa trop facile générosité. Mais tous ces scrupules tombaient par le fait de l'opulence dont j'étais redevable aux largesses de Lucie, en sorte que je n'avais plus qu'à l'instruire de ce qui s'était passé et à le prier de mettre le comble à ses bontés en allant, dès le lendemain, demander pour son neveu la main d'Henriette. Nul doute que, s'il me faisait cette faveur, l'autorité de son âge, le poids de son assentiment et la douce cordialité de ses manières ne dussent assurer le succès d'une démarche d'où dépendait la félicité de ma vie. Je résolus de lui parler le soir même.